on repart à la charge avec d'autres arguments. Il y en a deux types d'arguments, deux grandes classes d'arguments. On a les arguments qui sont développés dès le début des années 80, dès le début des années 2000, qui sont l'outsourcing, l'offshoring, tout ce que vous voulez, mais la fragmentation des chaînes de valeur dont on parlait tout à l'heure. Et puis l'autre argument qui vient un peu plus tard, qui est surtout très récent, là, c'est les gens en ce moment s'excitent là-dessus, s'intéresse aux imperfections des... qui mettent de l'hétérogénéité là-dedans. Qui disent, bon, un même travailleur qualifié, en fait, ce n'est pas le même toujours. Les gens sont hétérogènes, les entreprises sont hétérogènes, et puis il peut y avoir des imperfections sur le marché du travail. Si on met tout ça ensemble, on mélange un peu, là, on peut avoir des effets importants. Et donc, on a ces deux types d'arguments que je vais développer l'un après l'autre. Alors, d'abord, l'outsourcing. L'outsourcing, vous voyez, hein, votre iPhone, il est, c'est marqué « Designed by Apple in California ». Assembled in China, et en fait fabriqué un peu n'importe où, parce qu'entre le design et l'assemblage, il y a tout un tas de composants qui viennent de tout un tas de pays, y compris la France. Ok. Et on a plein d'évidences montrant que c'est vraiment un fait marquant de la mondialisation des années fin 90 et 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors, en quoi ça change notre affaire, ça? Le fait qu'une même entreprise va scinder sa chaîne de valeur pour faire des différents éléments dans différents pays. Au final, le premier réflexe en tant qu'économiste, c'est de dire que ça ne change rien. Ça ne change rien parce qu'au final, au lieu d'avoir une production de téléphone, j'ai une production de composants électroniques, de verres, de gyroscopes, de services. Et puis, les pays s'échangent ça entre eux, voilà, avec des consommateurs qui sont des entreprises, pas des consommateurs finaux, mais bon, somme toute, c'est pareil. Et puis, tout ça est déterminé par les avantages comparatifs, les dotations factorielles. Donc, a priori, ça ne change rien. En fait, ça change un petit peu. Pourquoi? Parce que ça démultiplie le commerce international et parce que ça impacte les demandes de travail plus précisément et plus directement qu'un mécanisme d'équilibre général dans un modèle de commerce international. Donc voilà, l'outsourcing, c'est Apple. Apple avait une usine en Californie. Bam, 1992, c'était fermé, ils ne font plus rien aux États-Unis. Et maintenant, ils font fabriquer un petit peu partout, notamment par Foxconn. Là, on a deux gains importants en commerce international. On a Robert Finstra et Gordon Hanson. Donc, c'est deux Californiens. Finstra n'est pas très connu, hein, mais une espèce de figure vénérable. Parce qu'en plus, il ne voyage pas. Donc, si vous voulez le voir, il faut aller en Californie. C'est assez contraignant. C'est pas comme si les gens qu'on voit dans toutes les conférences. Lui, peu de gens, en fait, le voient physiquement. Il fait des travaux, il est très lent, quoi. Il fait des travaux. Il y en a qui publient beaucoup, lui il publie pas beaucoup. Il ne cherche pas à publier dans des très très grandes revues, mais il fait des travaux très profonds, d'accord ? Donc très profonds, où il manipule beaucoup de données, il crée des bases de données, etc. Donc, c'est une espèce de vénérable, le gars qui est utile à la société scientifique des économistes, même si c'est pas le gars qui va briller dans toutes les conférences. Gordon Hanson fait surtout de l'économie du développement, de l'économie du travail. Et donc, ils ont un modèle d'outsourcing. Je vais vous faire le modèle parce qu'il est assez éclairant et il est très, très simple. C'est un modèle, c'est pas un vrai modèle. D'accord ? C'est pas un vrai modèle d'économie, c'est ce qu'on appelle un toy model, un modèle joué. Hein. Le modèle n'est pas bouclé, c'est pas une équipe générale, il y a vraiment des hypothèses très bêtes. C'est vraiment pour jouer. Hein. C'est pas le modèle sérieux. C'est un truc griffonné sur un coin de table. On a deux pays, un pays à haut salaire, un pays à bas salaire. Bon, les États-Unis, la Chine, très bien. On a un seul bien final, mais il va être produit à partir d'un continuum de biens intermédiaires, un continuum de tâches. Donc pour faire le bien final, pour faire une automobile, il faut du design, il faut de la recherche et développement, tout ça c'est des tâches, il faut nettoyer le bureau du designer, passer l'aspirateur, ça c'est une tâche aussi, etc., etc., construire du verre, construire des tôles, et puis il y en a plein, et puis vous pouvez même imaginer qu'effectivement, il ne faut pas faire un grand effort d'imagination pour, si vous commencez à scinder tout, ça fait beaucoup, beaucoup d'activités. Donc il y a un très grand nombre de tâches, et puis elles sont produites avec du travail qualifié et du travail non qualifié. Et certaines sont plus intensives en travail qualifié que d'autres. Okay. Donc chaque tâche a une intensité en travail qualifié différente. Effectivement, le design ou la gestion financière de l'entreprise automobile, ça c'est très qualifié. Nettoyer l'usine, c'est moins qualifié. Poser les caoutchoucs autour du pare-brise, c'est un peu plus qualifié que nettoyer l'usine, mais c'est pas super qualifié non plus, etc. Bon. Alors, on suppose que les tâches qui sont intensives en travail qualifié sont relativement moins coûteuses dans le pays développé. D'accord ? Donc, faut un peu calibrer le modèle pour qu'on ait des différences de productivité entre les pays qui ne soient pas extrêmes, pour qu'il y ait un pays qui fasse toutes les tâches moins chères qu'un autre. Donc, c'est des avantages absolus, hein, ce n'est pas des avantages comparatifs. Donc, voilà. Il y a des tâches qui sont moins chères dans le pays développé, c'est celles qui sont intensives en travail qualifié, c'est normal, le travail qualifié, le travail non qualifié est relativement cher dans le pays riche. Et puis les tâches intensives en travail non qualifié sont moins chères dans le pays pauvre. Magnifique. Et donc au final, j'ai ça. Là, j'ai les tâches. Là, j'ai les tâches qui sont intensives en travail qualifié, puis là, j'ai celles qui sont peu intensives en travail qualifié. Donc plus je me déplace comme ça, plus j'ai une intensité en travail qualifié qui augmente. Et là, j'ai les coûts de production de chacune de ces tâches. Donc pour la tâche celle-ci, là, toc, toc, toc. Dans le pays en développement, c'est la courbe, c'est étoile, là, eh bien, j'ai ce coût de production-là. Dans le pays développé, j'ai un coût plus élevé. Mais les pentes sont différentes. Pourquoi ? Parce que plus j'augmente l'intensité en travail qualifié, plus ça coûte cher au pays en développement, parce que le travail qualifié, c'est rare chez lui. Par contre, plus c'est facile pour le pays le pays riche, parce que le travail qualifié, il y en a plein et c'est relativement bon marché. Et donc, au final, ben, je suppose que mes deux courbes se coupent à un moment. Et donc, il y a un moment où fabriquer ces tâches-là, c'est moins cher dans le pays développé, sur la courbe C, que dans le pays en développement, ici. Par contre, pour toutes ces tâches ici, c'est moins cher dans le pays en développement, c'est moins cher en Chine qu'aux États-Unis. Donc, si je peux fragmenter ma chaîne de valeur, je vais fabriquer toutes ces tâches en Chine et puis toutes celles-là aux États-Unis. Fort bien. Alors, imaginons que j'ai un choc dans mon économie. Peu importe. Peu importe le choc. Donc, eux, ils doivent mettre un peu de capital. Bref, peu importe. Mais imaginons que j'ai un choc qui augmente les coûts de production dans le nord ou qui les baisse dans le sud. D'accord ? Peu importe. Par exemple, ça peut être l'entrée dans la mondialisation d'un pays à bas salaire. Avant, il n'y avait pas la Chine, et donc ça, c'était, le Mexique. D'accord ? Le Mexique. Et puis, soudainement, la Chine arrive, et la Chine, elle est beaucoup plus basse en termes de coûts que le Mexique. Hein. Donc, du coup, je déplace cette courbe vers le bas, je baisse tous les coûts de production si je les fais à l'étranger. Ça peut être ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que le graphique est un peu compliqué parce qu'il mélange tout. Avant, j'étais là, dans le truc en pointillé, là, dans les courbes en pointillé. Et puis, j'ai un choc qui me fait baisser ces étoiles. Donc, la Chine arrive, et donc produire à l'étranger, n'importe quelle tâche devient moins chère que la produire au Mexique. Donc, outsourcer n'importe quelle tâche baisse. Et donc, au final, le point d'intersection, il passe ici. OK ? Si j'augmente le coût de production dans le pays national, aux États-Unis, parce que je ne sais pas quoi, tout augmente ma brave dame, toc, ça augmente tous les coûts ici. Et au final, je passe à cet équilibre-là. Et donc là, je vais faire moins de tâches aux États-Unis et je vais en outsourcer plus. C'est normal, le coût de production moyen de l'outsourcing a baissé parce que maintenant j'ai accès à la Chine. Donc je vais outsourcer plus de tâches. C'est tout. Plus simple que ça, il n'y a rien comme modèle. Alors en quoi ça nous intéresse ? Ben ça nous intéresse parce que, en fait, ce que j'ai délocalisé comme nouvelle tâche, ce n'est pas n'importe lesquelles. Ce que j'ai délocalisé, c'est celle-ci. Avant, elles étaient ça, je faisais ça chez moi, et maintenant, j'outsource. Donc, c'est les nouvelles tâches délocalisées. Ces nouvelles tâches, pour le pays développé, c'est des tâches qui sont relativement intensives en travail peu qualifié. Ouais. Donc, je vais garder les plus intensives en travail qualifié, et je vais délocaliser celles qui, pour moi, États-Unis, étaient plutôt peu intensives en travail qualifié. Okay. Et donc forcément, ça induit un choc de demande biaisé sur le marché du travail. Je vais baisser ma demande de travail non qualifié, donc je vais baisser les rémunérations des travailleurs non qualifiés sur le marché américain. Je vais augmenter les inégalités. Okay. Si je fais ça, par ailleurs, c'est que je vais économiser des coûts. D'accord. Et donc, je vais me mettre à produire plus. Je produis moins cher, donc je produis plus. Et donc, je vais produire plus de chaque bien. Donc, en fait, ma demande pour ces tâches-là va augmenter. Donc, ma demande pour les travailleurs qualifiés augmente, ma demande pour les travailleurs non qualifiés baisse aux États-Unis. J'augmente les inégalités. Super. Et dans mon industrie, j'augmente l'intensité en travail qualifié. Okay. Mon industrie, elle devient spécialiste sur les tâches qualifiées, donc elle devient plus intensive en tâches qualifiées. Dans le pays en développement, qu'est-ce qui se passe? Ben avant, ils produisaient toutes ces tâches, et maintenant, ils se produisent toutes celles-là. Donc dans le pays en développement, il a des nouvelles tâches, mais qui sont celles qui viennent du Nord. Hein. Mais ces tâches, pour le pays en développement, elles ne sont pas intensives en travail non qualifié, elles sont intensives en travail qualifié. Et donc là, j'ai un choc de la demande de travail qui est favorable aux qualifiés dans les pays du Sud. Et donc je tire les inégalités, mais du coup par le haut, je tire les inégalités parce que j'ai une surdemande de travail qualifié dans les pays en développement. Et mon industrie dans le pays en développement gagne des tâches intensives en travail qualifié. Le niveau d'intensité en travail qualifié dans mon pays en développement a augmenté. Au final, j'ai bien méphistilisé. Augmentation des inégalités au nord, augmentation des inégalités au sud, augmentation de l'intensité en travail qualifié dans tous les secteurs, et ajustement intrasectoriel, ça n'a rien à voir avec les spécialisations, j'ai qu'un seul bien. Donc il n'y a pas d'ajustement intersectoriel. Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis j'ai une baisse des prix des biens industriels parce que j'ai baissé mes coûts. Ah, parfait. J'ai tous mes biens, tous mes chocs observés. Ce n'est pas du progrès technique, c'est bien de l'ouverture au commerce. OK? Et donc là, oui, ça change quelque chose. Alors, si on fait le modèle un peu mieux, c'est Grossman, Gene Grossman et Rossi Hansberg. Gene Grossman, que vous connaissez peut-être, qui est un grand théoricien en économie internationale, beaucoup de macro, du commerce, etc. Beaucoup travaillé avec Altman. Et puis, Rossi Hansberg, c'est un individu énervant qui est jeune et extrêmement brillant. Qui pense vite, quoi. Et donc, il voit un modèle qui est un modèle qui est la même chose, mais un peu mieux. D'accord ? Donc, c'est un vrai modèle, pour le coup. Donc, je vais passer vite, hein, mais ça nous raconte la même chose. Avec une subtilité, c'est que comme on est en équipe générale ici, que c'est un vrai modèle, en fait, j'ai des gains de productivité quand j'outsource, je baisse les coûts. C'est comme si j'avais un gain de productivité. Et donc, en fait, il montre que les gains de productivité peuvent avoir un effet sur la rémunération des non-qualifiés qui est, dans les pays du Nord, qui est supérieur aux pertes. Donc, les non-qualifiés peuvent gagner. En gros, je vais délocaliser certaines tâches, donc des non-qualifiés vont perdre leur emploi, ils vont devoir trouver un autre emploi. Mais comme les gains de productivité sont tellement forts que leur nouvel emploi sera mieux payé que le précédent. Okay, donc vous êtes au chômage, c'est pas grave. Quand vous retrouverez un emploi, ce sera vachement mieux. C'est ça que ça nous dit. Et voilà. Donc avec un modèle un peu différent, mais l'argument est à peu près le même, donc je vais vite. Donc voilà, donc on a un modèle d'outsourcing qui nous explique pas mal de faits. Avec en plus une subtilité qui est intéressante, c'est que, et c'est surtout visible dans le modèle de Grossman et Rossi Hansberg, il est un peu différent le modèle de Grossman et Rossi Hansberg, c'est que chez Finstra Hanson, les tâches sont plus ou moins intensives en travail qualifié. Chez Grossman et Rossi Hansberg, ils supposent que les tâches ont toutes la même intensité en travail qualifié, mais certaines sont plus ou moins délocalisables. Plus facile à délocaliser que d'autres. Il y a des tâches facilement délocalisables et d'autres qui sont moins facilement délocalisables. Donc, typiquement, les tâches répétitives, c'est facilement délocalisable. Dire, voilà, vous prenez ce décalcomanie, vous le mettez dans la machine, vous pressez, ça fait un t-shirt. Ça, c'est facilement délocalisable. Dire, bon, alors, telle pièce mécanique, il faut la faire à la commande, comme ci, comme ça, ou interpréter un résultat technique, etc. Il faut du go-between entre différentes personnes ou entre différentes tâches de la chaîne de valeur. Et donc, du coup, ça, c'est plus difficile à délocaliser. Et du coup, eux, ils ont une formulation du modèle qui est assez simple. Ils disent, bon, voilà, les tâches plus facilement délocalisables sont aussi celles qui sont intensives en travail non qualifié. D'accord ? Mais on peut faire un truc un peu différent, c'est de dire les tâches les plus délocalisables, c'est celles qui sont d'un degré d'intensité en travail qualifié intermédiaire. Typiquement, la gestion financière de mon entreprise ou le design, c'est difficile à délocaliser parce qu'il faut vraiment être au siège social pour que ça fonctionne, que les gens se parlent, etc. Parce que c'est stratégique, tout ce qu'on veut. Ça, c'est difficilement délocalisable. Et c'est intensif en travail qualifié. le gars qui est derrière une machine-outil et puis qui fabrique physiquement, donc le technicien qualifié qui fabrique les pièces, lui, par contre, je peux le délocaliser assez facilement. Je peux expliquer à un Indien, un Chinois, un Thaïlandais comment fabriquer le truc. Je lui envoie la machine, il saura le faire. Et puis le gars qui est le moins qualifié, qui est celui qui va changer la souris de mon ordinateur parce que c'est cassé, je ne sais pas comment ça marche, ou qui va nettoyer les carreaux du siège social, lui, je ne peux pas le délocaliser. Je ne vais pas prendre les carreaux, les envoyer en Inde et les récupérer. Donc c'est très peu qualifié, mais ce n'est pas délocalisable. Et donc finalement, il est possible que les tâches les plus délocalisables, c'est celles qui sont pas des tâches, pas les, forcément les moins qualifiées, mais à deux niveaux un peu intermédiaires. Okay ? Et ça, ça me ramène à mon U-shape là, de crise de la middle class, où finalement la middle class est employée dans des tâches qui sont délocalisables. Donc c'est un peu ce qu'on entend dire, bah, finalement, les informaticiens qui faisaient du code dans les années 80, c'était des stars. Et puis aujourd'hui, bah, tous les codeurs, ils sont en Inde et eux, ils n'ont plus de boulot. Ils sont relativement qualifiés, c'est pas super qualifié parce que c'est pas des ingénieurs système et machin, mais ils sont qualifiés. Ils ont été délocalisés. Et puis, leur collègue qui n'a pas fait d'études et qui travaille chez McDo, maintenant, les managers chez McDo, lui, il n'a pas été délocalisé. Hein. Okay. Donc, on a quelque chose qui peut être un peu subtil et du coup, qui rend les choses un peu compliquées. Hein, parce que si j'ai un modèle de commerce, j'ai Caroline en tête, Stolper Samuelson, je me dis, bah voilà, je suis un pays riche, je m'ouvre au commerce, les peu qualifiés, ça perd, les qualifiés, ça gagne. Bon, ben, je vais faire une politique pour corriger ça, pour retrouver un équilibre parisien, c'est facile. Hein. Je fais des plans de formation, je donne plein de sous à la NPE, à Pôle emploi, pour reformer les gens, les relocaliser, etc. Voire je taxe les riches pour payer les pauvres. Bon, ça, c'est simple. Maintenant, quand les gagnants et les perdants sont assez mélangés, c'est pas une classe sociale, c'est pas une classe de qualification, c'est voilà, un niveau d'éducation identique. C'est quelqu'un qui a un type de métier plutôt que quelqu'un qui a un autre. Hein. Donc, ils sortent de la même école d'ingénieur. Il y en a un qui a fait une tâche, mais qui est un peu délocalisable, puis l'autre, non. C'est assez subtil. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à identifier les perdants et les gagnants. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à avoir une réponse politique parce que je ne sais pas où toucher ou que faire. Ce n'est pas juste envoyer les gens à l'école. Ça ne marche pas non plus parce que sinon, je risque de faire former plein de gens qui vont se retrouver au bas de la cour. Hein. Donc, c'est... Cette question du U-shape, hein, elle est importante en termes de politique d'emploi et de politique sociale. OK. Donc, c'est ça. Deuxième explication récente à l'accroissement des inégalités liées au commerce sont des arguments qui passent, qui, pour le coup, on va introduire un peu d'imperfection de marché quelque part. D'accord ? Soit d'un profession du marché du travail, soit sur le marché des biens, l'un ou l'autre, voire les deux. Alors que jusqu'à maintenant, on était en concurrence parfaite. Hein. Grossman, il fait que des modèles en concurrence parfaite. C'est un vrai théoricien, il dit, bon, concurrence imparfaite, en fait, j'en ai pas besoin pour répondre aux plein. Donc, ça qui est les gens un peu ennuyeux. Hein. On pourrait avoir un modèle simple avec la concurrence imparfaite, mais il dit non. Je peux le faire, montrer le même truc en concurrence parfaite, et ça, c'est beaucoup plus smart. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus smart. Donc, en fait, effectivement, on n'a pas besoin de concurrence imparfaite. Là, on va avoir besoin de concurrence imparfaite. Et donc, on a trois types d'arguments qui sont les choses, effectivement, les plus récentes dans cette littérature. Le premier argument, c'est de dire, bah, quel que soit ce qui se passe, en fait, il y a des chocs. L'ouverture, c'est un choc. Il y a des entreprises qui vont fermer parce qu'ils font face à la concurrence, d'autres qui vont devoir grandir, etc. Et donc, je vais avoir, si je m'ouvre au commerce, j'ai un reshuffling sur le marché du travail, j'ai des gens qui doivent quitter leur emploi, retrouver un autre emploi, éventuellement changer de secteur ou changer de région, bon, peu importe. Peu importe quel modèle j'ai en tête derrière, hein, un modèle d'outsourcing, un modèle de la nouvelle théorie du commerce ou un modèle HOS, peu importe. Il se passe quelque chose quand j'ouvre, il y a un choc. Et ce choc, s'il y a des imperfections sur le marché du travail, ils ont des effets durables. Dans la théorie, si j'ai des marchés parfaits, les gens ils perdent un emploi, toc toc, dans la demi-seconde qui vient, ils en trouvent un autre, très bien. Dans la réalité, les gens doivent vendre leur maison, puis s'ils ne peuvent pas, c'est compliqué, ils restent au chômage, ils sont déqualifiés, et donc on a si on a des frictions sur le marché du travail, on va avoir des effets, une traînée comme ça de mon impact négatif qui va perdurer. Donc ça, c'est assez simple. Ça ne nécessite pas de modèle particulier. Et puis, on en a d'autres qui sont un peu plus spécifiques. Il y en a un, c'est, on va supposer, un truc assez dingue, c'est que les entreprises ne sont pas toutes les mêmes. D'accord ? Là, on se fait un peu violence en tant qu'économiste, on se dit, bon, okay, il y a des gens différents, et notamment, il va y avoir des entreprises qui sont très productives et puis d'autres qui sont moins productives. Des entreprises efficaces, puis des entreprises un petit peu moins. Et donc, quand je m'ouvre au commerce, qu'est-ce qui se passe ? Au sein d'un même secteur, eh bien, il se passe deux choses quand je m'ouvre au commerce. Un, j'ai des concurrents qui arrivent, ça c'est mal. Mais deux, j'ai un marché qui s'ouvre et ça c'est bien. Ben, quand je ne suis pas productif, si j'ai un peu de barrière à l'entrée sur les marchés d'exportation, les moins productives, les petites firmes ne vont pas pouvoir exporter. L'impact positif de l'ouverture, elles ne vont pas le voir venir. Par contre, l'impact négatif, c'est qu'elles voient les concurrents arriver, mais elles ne profitent de rien. Les plus efficaces, elles vont pouvoir exporter, donc elles vont pouvoir gagner des marchés à l'étranger. Et subir la concurrence sur leur marché national. Alors, les moyennement efficaces, ça se balance plus ou moins. Et puis, les très efficaces, elles vont gagner beaucoup plus sur les marchés mondiaux qu'elles vont souffrir sur le marché national et elles vont gagner. Donc, au final, mon ouverture fait des firmes gagnantes et des firmes perdantes. Okay. Et si j'ai un petit peu d'imperfection de marché du travail, par exemple, j'ai du wage bargaining dans mes entreprises, les salariés négocient un peu leur salaire avec leur patron, ce qui n'est pas une hypothèse totalement absurde. Eh bien, quand je suis dans une entreprise gagnante, je gagne. Quand je suis dans une entreprise perdante, je perds. Peu importe ma qualification, peu importe, rien du tout, j'ai ça. Si j'ai une autre imperfection du marché du travail, mais j'ai du matching, c'est-à-dire que les entreprises doivent payer, investir pour pouvoir trouver les bons salariés et bien se marier avec un salarié qui correspond à ce qu'ils cherchent, les meilleures entreprises ont plus de chances de matcher correctement parce qu'elles ont plus de moyens d'investir. Les meilleurs salariés ont plus de chances de matcher avec une bonne firme. Et donc, finalement, les bons salariés vont avec les bonnes firmes, et ça, c'est les gagnants. Et puis, les mauvais salariés vont avec les mauvaises firmes, et ça, c'est les perdants. Okay ? Donc, c'est la même chose. Et puis, le troisième argument, c'est que le progrès technique, qui était mon coupable alternatif précédemment, en fait, il reste toujours là. Hein. C'est vrai qu'il y a des machines, c'est vrai qu'il y a des robots et que bon, ça a bien des conséquences sur le marché du travail. Mais le progrès technique ne tombe pas forcément du ciel. Les entreprises innovent parce qu'elles ont des stimuli qui les poussent à innover. Et un de ces stimuli, ça peut être la concurrence internationale. Elles subissent de la concurrence, elles réagissent en investissant dans le progrès technique. Donc j'ai passé très vite sur ces choses-là. Avant, un papier sur le premier point, mais ça tombe sur le premier point, mais donc les effets de long terme sur le marché du travail, mais qui est un papier en fait assez général, qui est juste athéorique, il n'y a pas de théorie, c'est juste du fait, de Autor, qu'on connaît déjà, Dorn, qui est un autre, et Hanson, qu'on connaît déjà. Okay et eux, ils ont fait un papier qui a fait beaucoup de bruit, hein, donc, publié dans l'AER, puis qui a eu plein de reprises partout dans les médias, qui a regardé l'impact sur les marchés du travail locaux aux États-Unis, donc sur l'équivalent des zones d'emploi aux États-Unis, de l'exposition aux importations chinoises. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est ça, c'est de faire une jolie carte, d'accord ? Donc c'est les États-Unis, ça c'est les espèces de zones d'emploi aux États-Unis, donc comme toujours aux États-Unis, c'est très petit ici, puis après ils ont commencé à faiblir, là. Ils étaient pressés de finir, donc ils ont fait des grandes zones là. Et pour chaque équivalent de zone d'emploi, ils ont les données sociales qui leur disent combien il y a de salariés qui travaillent dans quel secteur d'activité. D'accord ? Donc ils ont la spécialisation industrielle de chaque zone d'emploi. Et puis ils regardent le degré, enfin le changement d'importation du bien de chaque secteur, produit par chaque secteur, d'importation chinoise de ce bien au cours d'une période relativement longue. Et donc ils calculent comme ça le degré d'exposition aux importations chinoises de chaque secteur. Donc, typiquement, ce secteur-là qui fabrique de la cacahuète, pas très exposé aux importations chinoises. Celui-là qui va fabriquer La cacahuète, c'est pas un bon exemple, mais du beurre de cacahuète, c'est manufacturier. Celui-là qui va fabriquer des éléments high-tech pour l'aéronautique, pas tellement impacté par les importations chinoises. Celui-là qui fabrique du textile ou des chaussures, lui, il va être très fortement impacté. Okay, donc, et donc, ils identifient comme ça, dans l'espace, économétriquement, l'impact direct de l'augmentation de l'exposition aux importations chinoises sur l'emploi. L'emploi dans cette zone d'emploi. Et donc, ils montrent un résultat assez important qui est que l'augmentation de l'exposition aux importations chinoises entre 2000 et 2007, qui est la période de grand boom des importations chinoises aux États-Unis, la croissance, elle est phénoménale. C'est vraiment l'arrivée massive de produits chinois aux États-Unis, explique 55% des pertes d'emplois dans l'industrie manufacturière. Okay, donc la moitié des pertes d'emplois dans l'industrie, c'est lié, c'est directement corrélé à l'exposition aux importations chinoises. Alors en vérité, c'est un peu compliqué, parce que, évidemment, c'est endogène. J'ai dans telle zone d'emploi des entreprises qui ne sont pas performantes, elles meurent, parce que les entreprises pas performantes meurent, ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça fait des pertes d'emplois, ou alors, je ne sais pas quoi, le PDG a une crise cardiaque en jouant au golf, claque, l'entreprise ferme. J'ai des pertes d'emplois. Comme j'ai des pertes d'emplois dans ce secteur-là, comme je produis moins de biens dans ce secteur-là, je suis obligé de l'importer, j'importe de Chine. Donc, c'est peut-être parce que c'est des mauvaises performances américaines qui font que je me reporte sur les importations chinoises. Donc, il faut faire contrôler de l'endogénéité, etc., faire des valeurs instrumentales. Tout ça est un peu compliqué. C'est assez discutable. Sur l'interprétation du résultat, moi, j'ai un petit peu des doutes parce que ce n'est pas vraiment de l'équilibre général. Bon, bref, c'est vraiment un truc très, 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 très simple corrélation. Et puis même comme ça, l'endogénéité, en fait, elle est plus profonde. C'est qu'il peut y avoir, ça peut être juste de la délocalisation américaine. C'est une entreprise qui a décidé de fermer une usine pour délocaliser en Chine et qui importe. Et donc, ce n'est pas ce que j'importe que je délocalise. Mais du coup, c'est un peu différent. Ce n'est pas parce que les Chinois sont devenus meilleurs, donc c'est toujours la mondialisation, mais ce n'est pas parce que les Chinois sont devenus meilleurs et que donc je perds des emplois. Et donc, c'est la faute aux Chinois. Donc, il faut mettre des barrières commerciales. Non. C'est la faute aux entreprises américaines qui ont décidé de délocaliser, ce qui est un truc un peu différent. Si les entreprises américaines ont décidé de délocaliser, c'est qu'il y a bien des Américains qui ont intérêt à le faire, ce qui est un chouïa différent. Et puis, ce n'est pas l'équilibre général, parce que si j'importe des produits chinois, c'est moins cher. Si c'est moins cher, je vais plus au restaurant, et donc j'ai une décréation d'emploi, normalement, dans les services protégés, etc. Donc, voilà. C'est vraiment de la corrélation brute. Mais les chiffres sont assez éclatants, et c'est en partie, ils sont très forts parce qu'effectivement, on a la variation des importations, de l'exposition aux importations chinoises entre 2000 et 2007 aux États-Unis, c'est juste colossal. En Europe, on est bien, bien au-delà de ça. On est genre à un facteur 10 en dessous de ça, en termes de croissance d'importation en provenance de Chine. Et donc, ils montrent, ce papier-là, puis un autre de Anne Harrison, montrent que les chocs d'importation comme ça, les pertes d'emplois qui sont... qu'on peut économétriquement imputer à une hausse des importations provenant de Chine, ont sur les individus des chocs qui sont plus ou moins permanents, en tout cas qui sont durables. Les gens perdent leur emploi et n'en retrouvent pas. Les gens perdent leur emploi, ou en tout cas ils ont une faible probabilité d'en retrouver, ou pas une probabilité très élevée d'en retrouver. S'ils retrouvent un emploi, ils retrouvent un emploi moins bien payé. D'accord ? Donc il y a bien... les gens qui perdent leur emploi, ils ont bien un choc de bien-être qui va être durable et qui est pas et donc il y a une perte nette pour l'économie, parce que qui est une vraie perte nette, c'est des gens qui ont investi dans une qualification et puis qui ont perdu cette qualification parce qu'ils ont dû ils ont travaillé toute leur vie comme ingénieur électronicien, ils se retrouvent chez McDonald's, tout cet investissement il a disparu, donc c'est une vraie perte nette. Ok. Un papier sur le deuxième point, et puis je vais aller vite. C'est un papier d'Amity et de Donald Davis. C'est récent, donc c'est une indonésienne. Donc il regarde les entreprises qui exportent, les entreprises qui n'exportent pas, ou les entreprises qui exportent, les entreprises qui importent, les entreprises qui font les deux, etc. Donc là, il régresse le logarithme du salaire dans une entreprise à une date donnée, à un secteur donné, en fonction du fait que l'entreprise exporte, oui ou non, est-ce qu'elle importe, oui ou non, est-ce qu'elle fait les deux. Et donc les trois coefficients sont positifs, significatifs, ça veut dire que par rapport au groupe de contrôle, qui est celle qui n'exporte pas et n'importe pas, qui ne sont pas internationalisées, celles qui sont internationalisées payent de meilleurs salaires. Donc les firmes internationalisées payent de meilleurs salaires. Ça, on sait ça, c'est vrai partout, vous faites ça dans n'importe quel pays, les firmes qui sont internationalisées payent de meilleurs salaires, ce qui justifie l'idée qu'il y a du bargaining entre les travailleurs. Si elles sont internationalisées, c'est qu'elles sont meilleures. Il faut être suffisamment compétitif, suffisamment bon pour être sur les marchés, pour pouvoir exporter. Ou avoir suffisamment de surface pour négocier un contrat de sous-traitance et importer des produits comme bien intermédiaire. Donc seules les meilleures firmes peuvent aller s'engager sur les marchés mondiaux. A priori, il n'y a pas de raison que les meilleures firmes payent des meilleurs salaires, à un niveau de qualification donné, sauf s'il y a du bargaining. Les meilleures firmes font plus de profits, elles partagent leurs profits avec leurs salariés, elles payent de meilleurs salaires. Et donc là, ils regardent un effet plus causal. Et donc ici, hein, on regarde la variation du salaire, d'accord, le changement du salaire d'une entreprise à une autre, en fonction du droit de douane du bien final, d'accord. Et donc on a une relation significative et négative. Ça veut dire que quand j'ai baissé le droit de douane sur le bien final, eh bien j'ai réduit les salaires, c'est-à-dire que j'ai vu un afflux de concurrents. Et donc ça a baissé les salaires dans les firmes qui étaient exposées. D'accord. Les droits de douane sur les inputs. D'accord. Donc ce qu'achètent les entreprises, ce qu'importent les entreprises, baisser les droits de douane sur les inputs, les baisser, va augmenter les salaires pour les firmes exportatrices, pour les firmes importatrices. Grosso modo, enfin pour conclure, mais je me confonds un peu, les entreprises qui exportent bénéficient de l'ouverture commerciale, d'accord, et en font profiter leurs salariés. Les entreprises qui importent bénéficient de l'ouverture commerciale et en font profiter leurs salariés. C'est bien identifié sur les changements de droits de douane, donc c'est assez proprement identifié économétriquement. Et donc ça suggère qu'effectivement, il y a des bonnes firmes et des mauvaises firmes, et ça induit des inégalités. Alors, ce n'est pas des inégalités sociales au sens riche-pauvre, parce que c'est le même salarié, qui a les mêmes caractéristiques, sauf qu'il a la chance d'être dans une bonne firme ou dans une mauvaise firme. Ce qui rend encore plus compliqué la compensation des gains et des pertes, hein. C'est vraiment les deux mêmes gars, ils travaillent dans deux entreprises différentes, il y en a une qui est bonne et pas bonne, l'autre qui n'est pas bonne, et il y en a un qui perd et l'autre qui gagne. Comment la politique économique peut compenser les perdants des uns et... Bah, ça, c'est compliqué, hein, d'accord. Mais on a des effets comme ça. Et puis, enfin, le progrès technique est endogène. On a plein d'évidences, hein, plus ou moins bien construites là-dessus. Je présente un qui est un papier de Bernard Jensen et Schott, 2005, un peu ancien, mais qui est toujours sympathique, qui regarde des entreprises américaines et qui regarde les conséquences sur leur comportement d'une augmentation du taux de pénétration des importations. Donc, est-ce qu'ils sont dans un secteur où les importations ont beaucoup augmenté? Ou est-ce que dans un secteur plutôt protégé, où il n'y a pas beaucoup d'importations? Et donc, là, c'est sur la probabilité de mourir. Donc, que font les entreprises quand elles sont soumises à la concurrence étrangère? Eh bien, elles meurent. Elles ont plus je suis soumis à la concurrence étrangère, c'est des coefficients positifs, plus j'ai une probabilité de mourir importante. Donc, les entreprises, elles peuvent mourir. Les entreprises, quand elles sont soumises à la concurrence étrangère, notamment des bas salaires, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent réduire leur emploi, c'est des effets négatifs, très bien. Mais elles peuvent aussi augmenter leur capital par tête, donc devenir plus intensive en capital, donc remplacer leurs salariés par des robots, hein, et augmenter leur niveau de salaire, donc remplacer des non-qualifiés par des qualifiés. D'accord. Donc on a bien l'évidence que les entreprises qui sont soumises à la concurrence étrangère bien changent un petit peu leur business model pour pouvoir augmenter leur productivité. Et ça, c'est pas c'est biaisé, vraisemblablement, en faveur des travailleurs qualifiés. Ça génère de l'inégalité. Donc même notre coupable alternatif, qui dédouanait le commerce international, qui était le progrès technique biaisé, en fait, il y en a une bonne partie qui doit être endogène aussi. Et donc voilà ma conclusion, et je m'arrête là, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour discuter si vous le souhaitez. Merci.